RFI, 13h30 à Tunis et Kinshasa, midi et demi à Dakar et en temps universel. Tout de suite, c'est Nicolas Brousse que l'on retrouve. Bonjour Nicolas.
Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. La Tunisie vote aujourd'hui 3 candidats à la présidentielle, ou plutôt 1 plus 2 serait-on tenté de dire, un étant Kais Saied, le président sortant surnommé en Tunisie l'hyper-président. Nous serons en direct de Tunis. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune ne compte pas effectuer de visite officielle en France. Il l'a annoncé hier et c'est un signe qui ne trompe pas de l'état des relations entre l'Algérie et la France. Début de la campagne de vaccination contre le Mpox en RDC, Jean Kaseya, le directeur général du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine sera notre invité. Le Libéria veut développer ses infrastructures, mais à quel prix la construction d'une autoroute serait source de pollution importante dans la région du Nord concernée? Une entreprise chinoise est sur la sellette. Et puis au Burundi, un homme se marie en tenue de karatéka. Résultat, les réseaux sociaux s'enflamment et celui qui a célébré le mariage se retrouve en prison. On n'oublie pas le sport avec la finale ce soir de la Coupe du Monde de Maracana. Le football made in Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, justement, affronteront les Béninois. Afrique Midi, une demi-heure d'infos africaines. Bienvenue, on tourne ensemble la première page. Et on vote aujourd'hui en Tunisie pour la présidentielle. Un choix parmi 3 candidats. Le président sortant, Kais Saied, a face à lui 2 challengers. Zouair Marzaoui, ex-député qui fut à la tête d'un parti nationaliste arabe. Et Ayachi Zamel, homme d'affaires actuellement en prison pour de faux parrainages supposés. Plusieurs autres candidats avaient déposé leur dossier mais n'ont pas été autorisés à concourir. Amira Soulem, vous êtes en direct d'un bureau de vote de Tunis. C'est la première fois qu'il y a si peu de candidats à une présidentielle post révolution tunisienne. Amira, est-ce que cela se ressent déjà sur la participation ?
Alors, il est 13h30, donc ici à Tunis. Là, moi, ce que je vois autour de moi, c'est qu'effectivement, il y a moins d'électeurs à cette heure-ci de la journée. Alors, pour des raisons assez évidentes, hein, repas en famille ou encore plage, vu le temps qu'il fait à Tunis en ce dimanche, on s'attend à ce que le flux de votants reprenne plutôt en fin de journée. C'est ce que m'ont dit notamment des commerçants aux abords de l'avenue Bourguiba. Après le travail, on ira voter. Ce matin, j'ai donc vu des grappes de citoyens se rendre dans les bureaux de vote, mais pas de grandes files non plus, en tout cas pas là où j'ai été. Cette présidentielle est un test pour le président Kais Saied, qui mise, lui, sur une participation importante, et donc c'est un enjeu, comme vous le disiez, la participation. Parce que faut savoir que pendant cette campagne, les militants de Kais Saied sur le terrain le répétaient inlassablement, allez voter en masse pour reconduire le président, il ne faut surtout pas qu'il y ait de second tour. Et d'ailleurs, l'ISI, qui est l'instance en charge d'organiser l'élection, n'a pas prévu de date pour un second tour à ce stade.
Amira Soulem, vous restez avec nous. On vous retrouve après avoir écouté ces Tunisiens que vous avez rencontrés ce matin, certains au bureau de vote, d'autres qui ont préféré ne pas faire le déplacement. On commence avec cet électeur qui est venu.
Pour la démocratie déjà.
Vous êtes confiant dans la démocratie tunisienne ?
Confiant à 100% l'est, mais il faut déjà voter pour avoir une petite démocratie. Puis après, on verra.
Je suis venue voter parce que j'ai des enfants. Ils n'ont pas d'avenir, ils sont perdus, mais j'ai encore de l'espoir. Oui, j'ai encore de l'espoir. J'aime la Tunisie et je veux que mes enfants restent vivre ici. J'en pleure nuit et jour.
La situation est mauvaise de tout point de vue en Tunisie, socialement, culturellement, politiquement, religieusement. On espère que ça ira mieux. Je pense donc que de nombreux jeunes viendront voter aussi.
J'ai voté pour le bien du pays, pour un président en mesure de réveiller la Tunisie, du nord au sud et d'est en ouest.
Non, je vote personne.
Vous
ne
voulez pas voter ?
Non.
C'est un boycott ou un désintérêt ou...
Non, laisse tomber. Après, je ne veux pas. Je vais voter après. C'est pas beau, il ne travaille pas bien. C'est mieux comme ça, je suis tranquille. Les personnes cassent la tête.
Amira Soulem, à l'écoute de ces témoignages, on comprend donc vraiment que le taux de participation va être le gros enjeu de ce scrutin. Et d'ailleurs, on attend toujours ce taux à la mi-journée, il n'est pas encore tombé.
Non, il devrait tomber maintenant d'ici une demi-heure. C'est voilà l'heure qui a été donnée par l'ISI, l'instance en charge d'organiser le scrutin pour ce premier tour à la mi-journée. Et puis une fois voilà qu'on aura ces résultats intermédiaires et surtout ceux de la fin de journée, on sera en mesure de savoir un peu voilà si le vote a été boudé ou pas. Je vous rappelle qu'il y a un désintérêt pour le politique actuellement en Tunisie et puis que l'opposition tunisienne a peiné à donner des consignes de vote claires. Une partie de l'opposition parlant d'élections mascarades a appelé à ne pas se déplacer au bureau de vote, alors que l'autre, au contraire, a appelé à le faire en masse, un peu comme si elle jouait le tout pour le tout. Je rappelle, et vous l'avez fait tout à l'heure, que plusieurs prétendants à Carthage ont vu leur candidature invalidée et que 3 d'entre eux qui avaient été autorisés à concourir par la justice ont été empêchés de le faire par l'ISI, d'où cette cacophonie qui règne un petit peu en Tunisie ces jours-ci.
Amira Soulem, correspondante de Radio France Internationale, en direct de Tunis. De l'autre côté de la frontière, en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a écarté hier, lors d'un entretien télévisé, l'idée d'une visite en France, un déplacement officiel une nouvelle fois repoussé. Il faut dire que le président Tebboune a une nouvelle fois hier accusé la France d'avoir commis un génocide lors de la colonisation. Alexandra Branjon, pas de doute, les relations entre les deux pays souvent tumultueuses le sont à nouveau.
Je n'irai pas à Canossa, a lancé hier soir le président algérien, une expression qui signifie aller supplier le pardon. Le président Tebboune a jugé une visite en France humiliante dans un contexte de relations à nouveau très tendues entre les deux pays. Je n'accepte pas les mensonges sur l'Algérie. Il y a eu génocide, a-t-il martelé, accusant une minorité haineuse en France de bloquer toute avancée sur le dossier mémoriel. Le passé colonial algérien et notamment celui de la guerre d'Algérie ne cesse de peser sur les relations franco-algériennes, et ce malgré la mise sur pied il y a 2 ans d'une commission d'historiens pour tenter de clore cette crise diplomatique. Voilà donc 1 an et demi que la visite du président algérien en France ne cesse d'être reportée. La dernière était prévue fin septembre, début octobre, mais l'annonce en juillet dernier de l'appui de Paris au plan d'autonomie marocain sur la question du Sahara occidental a contribué à une nouvelle détérioration des relations entre les deux pays.
Alexandra Branjon, sur ces relations entre la France et l'Algérie, celles entre la France et la RDC connaissent également un coup de chaud. Le président Tshisekedi était pourtant à Paris ce week-end pour le sommet de la francophonie, mais il n'a pas du tout apprécié que son homologue français omette le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo lors de son discours d'ouverture. Emmanuel Macron plaidait alors pour une diplomatie francophone qui défende, je le cite, l'intégrité territoriale partout à travers la planète. Or, le sujet est toujours éminemment sensible. Ce conflit dans l'est de la RDC empoisonne également les relations entre Kinshasa et Kigali, accusés de soutenir les rebelles du M23. À ce même sommet hier, Olivier Dungueré, le chef de la diplomatie rwandaise, accuse la République démocratique du Congo d'avoir fait capoter les discussions de paix à Luanda.
La dernière réunion ministérielle du 14 septembre était prometteuse, je dirais, puisqu'il y avait un plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de levée de nos mesures rwandaises de défense. Ce plan avait été harmonisé par les experts des 3 pays, y compris l'expert de la RDC. Lors de la réunion du 14 septembre, les 3 experts, y compris le chef des renseignements militaires de la RDC, avaient soutenu ce plan et demandé au ministre de l'adopter. Donc le Rwanda l'a accepté et la ministre de la RDC s'y est opposée, comme plus tard, et s'est aussi opposée à tout dialogue politique avec la M23 pour régler la question définitivement, alors que le Rwanda souhaitait qu'il y ait un dialogue pour s'attaquer aux causes profondes de la crise. Donc c'est à la RDC qui a bloqué ce processus. Maintenant, l'Angola nous a invités pour une 5e réunion ministérielle le 12 octobre. On attend de voir exactement l'ordre du jour, mais on estime que c'est à la RDC maintenant de soutenir pleinement ce processus de Luanda.
Propos recueillis par Pierre Firsion, l'un de nos envoyés spéciaux à ce 19e sommet de la francophonie. Son bilan est à retrouver sur RFI.fr. Le directeur général de Congo Airways et son adjointe ont été suspendus par le ministère du portefeuille, ministère qui gère la participation de l'État dans les entreprises publiques et d'économie mixte. Cette décision survient alors que la compagnie nationale de la RDC fait face à de graves difficultés, et ce depuis plusieurs mois. Des accusations de mauvaise gestion financière et de non-respect des résolutions du conseil d'administration ont en plus été évoquées. Cela fait beaucoup à Kinshasa où l'on rejoint Patien Ligodi.
Créé en 2014, Congo Airways est aujourd'hui au plus mal. De sa flotte initiale de 4 avions, il ne reste aujourd'hui que 2 appareils, tous 2 cloués au sol en raison des problèmes techniques. La compagnie a bénéficié d'un moratoire accordé par l'Association du transport aérien international IATA pour lui permettre de remettre l'un de ses avions en service. Malgré les annonces répétées de soutien du gouvernement pour tenter de sauver l'entreprise, aucune intervention concrète n'a abouti jusqu'à présent. La dernière initiative en date concerne l'adoption d'une proposition de renouvellement de la flotte de Congo Airways lors d'un conseil des ministres ministre en juillet dernier, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre des Transports, a présenté un plan d'action pour relancer la compagnie. Un plan sur 5 ans qui prévoit l'acquisition en location-achat des 3 avions des types Airbus A320. Cependant, la société continue de faire face à des problèmes internes. Dans la décision des suspensions, le ministère du portefeuille estime qu'il existe des indices graves de mauvaise gestion. Les revendications répétées de la délégation syndicale et les résultats du dernier audit viennent renforcer ces accusations. En attendant une décision définitive du gouvernement, une équipe de gestion intérimaire a été mise en place, comprenant un chargé de mission et 2 adjoints pour assurer la direction générale. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Au Sénégal, selon l'un de ses proches, l'ex-président Macky Sall démissionne de son poste d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, une fonction incompatible avec sa position de tête de liste de la coalition d'opposition Takuwalu pour les législatives anticipées, prévues le 17 novembre prochain. Au Tchad, le parti des transformateurs de l'opposant Succès Masra demande le report des élections législatives, provinciales et communales prévues le 29 décembre. C'est la condition posée par les militants pour que leur formation participe à ces scrutins. Résultat, Carole Valade, de 2 jours de débats qui ont animé la convention du parti.
Les transformateurs iront aux élections, mais à condition qu'elles soient reportées à 2025 en raison des violentes inondations qui touchent actuellement le pays, qui ont fait près de 600 morts, affecté près de 2 millions de personnes, rendu totalement inaccessible certaines partie du pays et qui devrait encore s'aggraver dans les prochains jours. Impossible dans ces conditions de battre campagne, selon le parti qui dit tirer les leçons de sa participation à l'élection présidentielle de mai dernier. Succès Masra est arrivé second selon les résultats officiels qu'il conteste toujours, en posant également comme condition la révision des listes, du découpage, du code et de la composition des institutions électorales. Succès Masra laisse néanmoins la porte ouverte à une forme de collaboration avec le pouvoir, dans le cadre de ce qu'il nomme un consensus bipartisan, de quoi faire grincer des dents dans les rangs des autres partis. Carole Balade, Djamena, RFI.
Au Burundi, l'arrestation cette semaine d'un responsable administratif fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Le conseiller en charge des affaires administratives et sociales de la commune de Rugombo, dans le nord-ouest du pays, a été arrêté pour avoir célébré le mariage civil d'un homme venu en tenue de karatéka. Sur une photo publiée sur le réseau X, ex-Twitter, on voit le marié dans cette tenue originale, visiblement un peu trop au goût de certains. Ezra Zikoumana.
Sur la photo, un homme en kimono blanc et ceinture noire, gérant d'une salle de fête de son état et passionné par le karaté, debout devant un responsable administratif en train de le marier à sa fiancée dans une robe blanche des plus conventionnelles. La photo va tout de suite susciter des clics et des débats interminables sur la tenue plutôt inhabituelle pour un tel événement. Certains sont pour, d'autres contre. Le chef du bureau chargé des affaires politiques et sociales à la présidence, Jean-Claude Nenzako Karigwa, ne va pas cacher sa désapprobation dans un poste où il s'en prend à ceux qui ont accepté qu'une telle cérémonie ait lieu. « Pour moi, ils ont mal agi, tranche-t-il, en se demandant comment les Burundais allaient préserver leur identité culturelle si l'on cautionne des choix vestimentaires aussi inappropriés. » Ces propos vont relancer de plus belle la polémique sur les réseaux sociaux. 2 jours plus tard, Patrick Choi-Tongye, qui a marié le couple devenu célèbre malgré lui, est arrêté et emprisonné dans un cachot du commissariat de la police de Chibitoke, où il croupit depuis 6 jours. Une source judiciaire assure que l'ordre de l'arrêter est venu d'en haut. Depuis, la police locale est dans l'embarras et n'a pas encore trouvé un motif d'inculpation, précise la source, le code civil burundais étant muet sur la tenue des mariés le jour de leur mariage ou sur l'endroit où celui-ci doit être célébré.
Esdras Dikoumana, autre polémique au Liberia. Plusieurs villages dans le nord du pays sont menacés de pollution, selon les habitants de la région, qui dénoncent l'exploitation sauvage de carrières par une entreprise chinoise, China Railway Sevens Group, financée par la Banque africaine de développement, a été choisie par les autorités pour construire une grande autoroute. Le problème, Christina Okello, c'est que pour créer cette infrastructure, ces usines sont accusées de polluer l'eau et les terres agricoles.
Depuis 4 ans, Sam Carwoods, habitant du village Henry Barn dans le comté des Nimba, voit des sédiments de pierre provenant de la carrière chinoise tomber sous ses terres et sous ses rivières.
Quand ils font exploser la carrière, ils utilisent des produits chimiques et ça pollue l'air. Après, il y a de la poussière sur la nourriture et nous ne pouvons pas consommer nos produits comme le manioc, tout est pollué. Nos ressources en eau se sont taries et tous les cours d'eau sont endommagés. Aujourd'hui, nous vivons sans eau ou nous devons la consommer en achetant des bouteilles en plastique. Ceux qui n'ont pas d'argent, eux, doivent boire l'eau polluée.
Avec des conséquences pour la santé, plusieurs habitants se plaignent de problèmes de diarrhée et de maux de tête. Sam Carwood dit avoir perdu 11 membres de sa famille. Au mois de mai de cette année, un rapport de l'Agence de protection de l'environnement a mis en cause l'entreprise chinoise pour avoir déversé des sédiments de mortier dans les nappes phréatiques. Des conclusions restées depuis sans suite, motivant les habitants comme Sam Carwood à vouloir désormais porter plainte.
Dossier suivi par Christina Okello. Les sports, non pas du karaté, mais du football pour commencer. Le champion de la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana sera connu ce soir. Finale tout à l'heure entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, où est née cette version du football qui se joue à 6 sur un terrain plus petit et sans gardien de but. Sylvain Yobo est le sélectionneur de l'équipe ivoirienne. Il est confiant, mais attention, il ne prend pas à la légère ses adversaires.
Par deux fois, le Togo nous a mené, on n'est toujours pas revenu au score. Même après le premier tireur qui a raté, on avait toujours le mental et on avait foi en notre équipe. Nos coachs nous ont préparé mentalement pour dire cette victoire, c'est au mental, puisque Togo, c'est une très bonne équipe et c'est le voisin.
Et comment vous voyez la finale contre la Côte d'Ivoire?
On prend match par match, on respecte toujours les adversaires. On va passer à la séance vidéo, voir comment l'adversaire évolue. Et puis, je vous promets une chose, notre objectif, c'est la médaille d'or.
Les propos sont recueillis par Molamine Sissavané et le coup d'envoi de cette finale du Maramonde est prévu à 20h locale. En rugby, un nouveau sélectionneur à la tête du Cameroun, Olivier Missoub, 43 ans, ancien joueur du Stade français à Paris et du Racing Club de Toulon, compte hisser son équipe au plus haut en s'appuyant sur son expérience et donc à la fois sur les joueurs qui évoluent au Cameroun, mais aussi sur les binationaux qui jouent en top 14, le championnat français considéré comme l'un des tout meilleurs au monde. Il s'est confié à Victor Missistrano.
Je pense qu'un jour viendra où il y aura des batailles entre les sélections africaines et l'équipe de France pour aller récupérer un joueur. J'espère qu'un jour ça viendra, comme on peut le voir sur le foot. Parce qu'on a beaucoup de... Moi, j'ai halluciné un peu avec le nombre de joueurs qui avaient des origines camerounaises. Il est en pleine évolution, le rugby africain, mais on a besoin de toute la diaspora africaine, que ce soit algérienne, marocaine, tunisienne, camerounaise, sénégalaise, ivoirienne et autres qui jouent dans les plus grands championnats pour venir aider. Et je pense qu'il faut qu'on tende vers là. Voilà. Mais ça, c'est la responsabilité de tous ces joueurs-là, que moi j'appelle avec la sélection camerounaise et ceux qui sont appelés avec les autres sélections. Voilà, et de prendre leurs responsabilités et à tous ces joueurs d'avoir confiance en ce qu'ils sont et puis de se challenger pour construire quelque chose avec le Cameroun, bien sûr, mais aussi avec les autres nations. Voilà.
Et on verra si sa stratégie fonctionne dès le mois prochain à Casablanca au Maroc pour la première phase de la Coupe d'Afrique. Il est presque 12h48 en temps universel. Et c'est l'heure de retrouver notre invité, directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, Africa CDC. Jean Kaseya revient sur la vaccination lancée contre le Mpox en RDC, le pays le plus touché par le virus. La campagne a commencé ce week-end, entretien mené par Pierre-Olivier.
Bonjour docteur Jean Kaseya.
Bonjour.
La campagne de vaccination contre le Mpox commence en RDC. Quelles sont les régions concernées en priorité ?
Nous avons par exemple les chutes Kivu, l'Équateur, nous avons aussi les Sankuru, mais nous voulons attirer aussi l'attention sur le fait qu'à Kinshasa, on a vu un nombre important de cas, et donc Kinshasa sera aussi intéressé.
Quel est le public qui va être ciblé en priorité ?
En priorité, ce sont les personnes infectées, ce sont les personnes contacts de ces personnes et les contacts de deuxième degré, pour qu'on coupe la chaîne de transmission. Nous avons aussi les personnes vulnérables, surtout les personnes avec immunité atteinte, et on ajouterait à cela les personnes déplacées. Par exemple, rien qu'au chute Kivu, vous avez plus de 1 million de personnes qui sont des déplacés internes, et on a vu des cas qui se sont déclarés là-bas. Donc, voilà la priorité actuellement.
Alors, dans le sud de Kivu, la campagne de vaccination devrait débuter lundi. Qu'est-ce qui rend difficile l'approvisionnement dans certaines régions de RDC ?
Vous savez, la RDC, c'est un pays très vaste et c'est un pays où les infrastructures routières, et c'est un véritable casse-tête. Ajouté à cela, à l'est du pays, il y a l'insécurité. Donc, c'est autant de facteurs qui font que il y a certaines activités de préparation qui ont pris du retard et On espère que ça va se rattraper.
Jean Casseillat, de combien de doses de vaccins contre le Mpox la RDC dispose-t-elle pour l'instant?
Nous avons actuellement, la RDC a reçu 200 000 doses venant de l'Union européenne avec Africa CDC, le partenariat qu'on a noué. En plus de cela, la RDC a reçu 65 000 doses, dont 50 000 venant du gouvernement américain et 15 000 venant des Gavi. Donc, c'est sur ces 265 000 doses que la campagne va commencer. Et nous savons qu'il y a des promesses des nouveaux vaccins dans la France. Et je viens de signer un document tripartite, la France, Africa, CDC et l'Union européenne pour la fourniture de ces vaccins. Il y a l'Allemagne, mais aussi il y a le Japon avec 3 millions de doses. Donc, nous pensons que cette campagne qui va commencer va ouvrir les portes très grandes. On n'oublie pas les 1 million de doses promises par le gouvernement américain.
Jean Casseillat, vous appelez la population à se faire vacciner dès que possible, sans crainte.
Ce vaccin a déjà été utilisé en Europe, aux États-Unis. La preuve est là, la population rwandaise s'est fait vacciner, elle n'est pas morte. Et au contraire, on voit une courbe descendante au Rwanda. Donc, nous appelons toute la population africaine concernée à se faire vacciner. Nous sommes là, notre mandat est de garder la santé des Africains et de notre continent. Et Africa CDC fera de son mieux en travaillant ensemble avec le gouvernement et avec le partenaire pour sauvegarder ça.
Merci beaucoup, Dr Jean Casseillat.
Merci à vous.
Le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, Jean Casseillat, avec Pierre Olivier, l'invité d'Afrique Midi, à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. Et sur les chemins d'écriture, on retrouve nous, notre guide Tirthankar Chanda. Au programme ce dimanche, une rencontre avec Véronique Tadjo, la grande dame des lettres africaines, qui sort son nouveau roman « Je remercie la nuit ». Il paraît aux éditions Mémoire d'Encrier.
Avec une œuvre composée de romans, poésies, livres pour la jeunesse, la franco-ivoirienne Véronique Tadjo est en effet une auteure majeure de la littérature postcoloniale de langue française. Son nouveau roman est campé en pleine crise post-électorale qui a marqué l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et dont l'impact perdure dans l'inconscient collectif. Véronique Tadjo.
C'est un moment qui a été très important puisque on a assisté à un effondrement total du processus démocratique. Dans ce livre, j'ai essayé de montrer comment cette crise-là a eu un impact direct sur des gens.
Que raconte ce roman, Tirthankar?
Il raconte l'histoire d'une amitié singulière entre deux jeunes filles dont la guerre civile a fait basculer la vie dans le chaos. Flora et Yasmina, âgées d'une vingtaine d'années, sont étudiantes à l'université de Cocody, à Abidjan, quand la crise politique éclate. Les deux filles s'entendent à merveille, malgré leurs différences sociales et politiques. Mais la rentrée universitaire 2010, sur laquelle s'ouvre ce roman, se révèle être la rentrée de tous les dangers, avec l'éclatement de violences jusque dans leur campus universitaire. Cette guerre fratricide aura pour conséquence de séparer les deux amis et de les transformer à tout jamais. Véronique Tadjo.
J'ai voulu avoir deux personnages qui, sans être des révolutionnaires, elles ont quand même cette volonté de faire entendre leur voix. Et il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes. Elles ont une grosse dose de naïveté. Une naïveté qui, en même temps, est ce qui les qualifie et les rend beaucoup plus prêtes à voir l'autre côté des choses.
Tirthankar, vous avez apprécié l'ouvrage. Qu'est-ce qui fait son originalité?
Il me semble que cette originalité est à chercher moins dans sa structure narrative que dans son écriture. « Je remercie la nuit » s'inscrit dans l'écriture sophistiquée de Véronique Tadjo, mêlant analyse fine et métaphore de la condition humaine. Dans la deuxième partie du roman, qui se déroule à Johannesburg, en Afrique du Sud, où Flora se réfugie, la métaphore dominante est celle de la peinture que pratique Zolile, l'amoureux sud-africain de la jeune femme. Pour le Sud-Africain, l'art est un répit, une poussière d'humanité, une note de jazz, une déclaration d'amour, selon les mots de Véronique Tadjo. Des qualificatifs qu'on pourrait appliquer au nouveau récit de cette dernière, qui est lui aussi une déclaration d'amour à la Côte d'Ivoire, voire une invitation à surmonter ces mots. Véronique Tadjo.
Je sais qu'un livre ou un recueil de poèmes ne peut pas tout changer, ne peut pas faire la révolution, mais elle permet de continuer à réfléchir sur des événements ou des sentiments ou des émotions qui continuent à nous toucher. On n'a pas encore évacué toutes les peurs et les douleurs qu'on a eues au moment de la crise post-électorale de 2010-2011.
Premier ouvrage de fiction sur la crise post-électorale, le roman de Véronique Tadjo est aussi une invitation à d'autres romanciers à s'emparer à bras-le-corps de ce sujet. Aussi ne s'étonnera-t-on pas de l'absence du point final à la fin du récit. Ce n'est sans doute pas un oubli.
Et on n'oubliera pas, Je remercie la nuit par Véronique Tadjo. Il a paru aux éditions Mémoire d'Encrier et c'est donc le coup de cœur cette semaine de Tirtan Karchanda. 100% création, la Fashion Week de Paris a cédé la place mardi dernier au Festival de la Francophonie dont RFI était partenaire et c'est un défilé de mode de créateurs francophones qui a fait le trait d'union. La créatrice Anissa Medeb et sa marque Anissa Aïda y a participé. Ses collections à l'esthétique japonaise sont riches des savoir-faire et de l'artisanat tunisien et cela a beaucoup plu à Maria Afonso.
Pour une de mes collections récentes, le point de départ, c'était le motif aile d'hirondelle qu'on trouve beaucoup dans les céramiques du 19e siècle, donc on retrouve beaucoup dans la Médina. Très graphique, très géométrique. J'ai voulu faire dialoguer ça avec les traditions japonaises d'origami, de pliage et de kirigami, de découpe. J'ai beaucoup travaillé les découpes laser sur les vêtements et aussi les pliages.
Anissa Medeb, créatrice franco-tunisienne et fondatrice de la marque Anissa Aïda.
Anissa, c'est éponyme, c'est mon prénom. Et Aïda, c'est un hommage à ma grande sœur qui nous a quittés en 2010. Plus jeune, c'était moi qui adorais dessiner, faire des croquis. Mais par contre, elle me disait souvent « J'aimerais bien que tu dessines une robe comme ci, un chemisier comme ça, une saharienne. » Et on allait voir des couturières ensemble et on créait les vêtements. Donc on avait le projet de lancer la marque ensemble. Comme elle nous a quittés trop jeunes, j'ai décidé de lancer la marque pour elle.
Née à Paris de parents tunisiens, Anissa Medeb grandit entre Tunis et Paris. Passionnée de mode depuis son enfance, elle fait des études en design de mode entre New York et Londres. En 2016, elle visite Tokyo et tombe amoureuse du Japon. Inspirée par l'esthétique du pays du soleil levant et la Tunisie, la créatrice franco-tunisienne lance sa marque Anissa Aïda en 2016. Une marque présente aussi bien à Tunis qu'à Tokyo. Anissa Medeb aime mettre au goût du jour le patrimoine tunisien avec ses pièces signatures. Celles-ci rendent hommage à ses racines familiales et revisitent le patrimoine textile en s'appuyant sur les savoir-faire de l'artisanat tunisien.
Le tissage artisanal de la soie, c'était surtout utilisé pour des vêtements traditionnels comme des jebas pour hommes. Il y a très peu de gens qui portent encore ces vêtements pour les cérémonies, donc les savoir-faire se perdent et ma mission, ça serait de contribuer à pérenniser ces savoir-faire.
Consciente de l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement, la créatrice collabore avec des artisans locaux.
Je vais allier les références des broderies traditionnelles de ma grand-mère avec la technique du sashiko, une technique de broderie japonaise. J'aimerais décliner ces motifs de manière plus graphique, les retravailler.
Retrouvez l'univers d'Anissa Aïda sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
Et cette chronique 100% création était signée Maria Afonso. C'est la fin de cette édition d'Afrique Midi, mise en onde par Mickaël Goncalves, rédaction en chef Karine Franck avec Cécile Périllard. À suivre le journal international en français, sauf en Afrique de l'Ouest où vous attendez 30 minutes d'information en full day. Et en Afrique lusophone où vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'infos en portugais. C'est aussi ça la richesse de Radio France Internationale. Quant à moi, ce n'est qu'un au revoir. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès 16h temps universel avant Afrique Soir. Bien sûr, clin d'œil amical à toute l'équipe d'Afrique Soir qui est en train de préparer la première édition. Ce sera avec Zéphirin Quadio et ce sera à 18h30 TU. D'ici là, prenez soin de vous, 30 secondes et le retour de l'info sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Que signifie être un homme dans les sociétés africaines aujourd'hui? Le féminisme menace-t-il la masculinité? Le partage du pouvoir entre les hommes et les femmes est-il compatible avec les traditions du continent?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.